Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revoici donc ensemble ce soir pour la suite de l'œuvre de Gérard de Nerval, Aurélia. J'entrai dans une vaste salle où beaucoup de personnes étaient réunies. Partout, je retrouvais des figures connues. Les traits des parents morts que j'avais pleurés se trouvaient reproduits dans d'autres qui, vêtus de costumes plus anciens, me faisaient le même accueil paternel. Ils paraissaient s'être rassemblés pour un banquet de famille. Un de ses parents vint à moi et m'embrassa tendrement. Il portait un costume ancien dont les couleurs semblaient pâlies et sa figure souriante sous ses cheveux poudrés avait quelque ressemblance avec la mienne. Il me semblait plus précisément vivant que les autres et pour ainsi dire en rapport plus volontaire avec mon esprit. C'était mon oncle. Il me fit placer près de lui et une sorte de communication s'établit entre nous. Car je ne puis dire que j'entendisse sa voix. Seulement, à mesure que ma pensée se portait sur un point, l'explication m'en devenait claire aussitôt, et les images se précisaient devant mes yeux comme des peintures animées. Cela est donc vrai, disais-je avec ravissement, nous sommes immortels, et nous conservons ici les images du monde que nous avons habité. Quel bonheur de songer que tout ce que nous avons aimé existera toujours autour de nous. J'étais bien fatigué de la vie. Ne te hâte pas, dit-il, de te réjouir, car tu appartiens encore au monde d'en haut, et tu as à supporter de rudes années d'épreuves. Le séjour qui t'enchante a lui-même ses douleurs, ses luttes et ses dangers. La terre où nous avons vécu est toujours le théâtre où se nouent et se dénouent nos destinées. Nous sommes les rayons du feu central qui l'anime et qui déjà s'est affaibli. Et quoi, dis-je, la terre pourrait mourir et nous serions envahis par le néant. Le néant, dit-il, n'existe pas dans le sens qu'on l'entend. Mais la terre est elle-même un corps matériel dont la somme des esprits est l'âme. La matière ne peut pas plus périr que l'esprit, mais elle peut se modifier selon le bien et selon le mal. Notre passé et notre avenir sont solidaires. Nous vivons dans notre race et notre race vit en nous. Cette idée me devint aussitôt sensible, et comme si les murs de la salle se fussent ouverts sur des perspectives infinies, il me semblait voir une chaîne non interrompue d'hommes et de femmes en qui j'étais et qui étaient moi-même. Les costumes de tous les peuples, les images de tous les pays apparaissaient distinctement à la fois comme si mes facultés d'attention s'étaient multipliées sans se confondre par un phénomène d'espace analogue à celui du temps, qui concentre un siècle d'action dans une minute de rêve. Mon étonnement s'accrut en voyant que cette immense énumération se composait seulement des personnes qui se trouvaient dans la salle et dont j'avais vu les images se diviser et se combiner en mille aspects fugitifs. Nous sommes sept, dis-je à mon oncle. C'est en effet, dit-il, le nombre typique de chaque famille humaine, et par extension, 7 fois 7 et davantage. je ne puis espérer de faire comprendre cette réponse qui pour moi-même est restée très obscure. La métaphysique ne me fournit pas de termes pour la perception qui me vint alors du rapport de ce nombre de personnes avec l'harmonie générale. On conçoit bien dans le père et la mère l'analogie des forces électriques de la nature, mais comment établir les centres individuels émanés d'eux, dont ils émanent comme une figure animique collective dont la combinaison serait à la fois multiple et bornée. Autant vaudrait demander compte à la fleur du nombre de ses pétales ou des divisions de sa corolle, au sol des figures qu'il trace, au soleil des couleurs qu'il produit. Tout changeait de forme autour de moi. L'esprit avec qui je m'entretenais n'avait plus le même aspect. C'était un jeune homme qui désormais recevait plutôt de moi les idées qu'il ne me les communiquait. Étais-je allé trop loin dans ces hauteurs qui donnent le vertige? Il me sembla comprendre que ces questions étaient obscures ou dangereuses, même pour les esprits du monde que je percevais alors. Peut-être aussi un pouvoir supérieur m'interdisait-il ces recherches. Je me vis errant dans les rues d'une cité très populeuse et inconnue. Je remarquai qu'elle était bossuée de collines et dominée par un mont tout couvert d'habitations. À travers le peuple de cette capitale, je distinguais certains hommes qui paraissaient appartenir à une nation particulière. Leur air vif, résolu, l'accent énergique de leurs traits me faisait songer aux races indépendantes et guerrières des pays de montagne ou de certaines îles peu fréquentées par les étrangers. Toutefois, c'est au milieu d'une grande ville et d'une population mélangée et banale qu'ils savaient maintenir ainsi leur individualité farouche. Qu'étaient donc ces hommes ? Mon guide me fit gravir des rues escarpées et bruyantes où retentissaient les bruits divers de l'industrie. Nous montâmes encore par de longues séries d'escaliers au-delà desquels la vue se découvrit. Ça et là, des terrasses vêtues de treillages, des jardinets ménagés sur quelques espaces aplatis, des toits, des pavillons légèrement construits, peints et sculptés avec une capricieuse patience, des perspectives reliées par de longues traînées de verdure grimpante séduisaient l'œil et plaisaient à l'esprit comme l'aspect d'une oasis délicieuse, d'une solitude ignorée au-dessus du tumulte et de ces bruits d'en bas, qui là n'étaient plus qu'un murmure. On a souvent parlé de nations proscrites, vivant dans l'ombre des nécropoles et des catacombes. C'était ici le contraire, sans doute. Une race heureuse s'était créée cette retraite aimée. Cette retraite aimée des oiseaux, des fleurs, de l'air pur et de la clarté. Ce sont, me dit mon guide, les anciens habitants de cette montagne qui domine la ville où nous sommes en ce moment. Longtemps, ils y ont vécu simples de mœurs, aimants et justes, conservant les vertus naturelles des premiers jours du monde. Le peuple environnant les honorait et se modelait sur eux. Du point où j'étais alors, je descendis, suivant mon guide, dans une de ces hautes habitations dont les toits réunis présentaient cet aspect étrange. Il me semblait que mes pieds s'enfonçaient dans les couches successives des édifices de différents âges. Ces fantômes de construction en découvraient toujours d'autres, où se distinguait le goût particulier de chaque siècle, et cela me présentait l'aspect de fouilles qu'on avait faites dans les cités antiques. Si ce n'est que c'était aéré, vivant, traversé de mille jeux de la lumière. Je me trouvai enfin dans une vaste chambre, où je vis un vieillard travaillant devant une table à je ne sais quel ouvrage d'industrie. Au moment où je franchissais la porte, un homme vêtu de blanc, dont je distinguais mal la figure, me menaça d'une arme qu'il tenait à la main. Mais celui qui m'accompagnait lui fit signe de s'éloigner. Il semblait qu'on eût voulu m'empêcher de pénétrer le mystère de ses retraites. Sans rien demander à mon guide, je compris par intuition que ses hauteurs et en même temps ses profondeurs étaient la retraite des habitants primitifs de la montagne. Bravant toujours le flot envahissant des accumulations de races nouvelles, il vivait là, simple de mœurs, aimant et juste, adroit, fermes et ingénieux, et pacifiquement vainqueur des masses aveugles qui avaient tant de fois envahi leur héritage. Et quoi, ni corrompu, ni détruit, ni esclave, pur, quoiqu'ayant vaincu l'ignorance, conservant dans l'aisance les vertus de la pauvreté. Un enfant s'amusait à terre avec des cristaux, des coquillages et des pierres gravées, faisant sans doute un jeu d'une étude. Une femme âgée, mais belle encore, s'occupait des soins du ménage. En ce moment, plusieurs jeunes gens entrèrent avec bruit, comme revenant de leurs travaux. Je m'étonnais de les voir tous vêtus de blanc. Mais il paraît que c'était une illusion de ma vue. Pour la rendre sensible, mon guide se mit à dessiner leur costume qu'il teignit de couleurs vives, me faisant comprendre qu'ils étaient ainsi en réalité. La blancheur qui m'étonnait provenait peut-être d'un éclat particulier, d'un jeu de lumière où se confondaient les teintes ordinaires du prisme. Je sortis de la chambre et je me vis sur une terrasse disposée en parterre. Là se promenaient et jouaient des jeunes filles et des enfants. Leurs vêtements me paraissaient blancs comme les autres, mais ils étaient agrémentés par des broderies de couleur rose. Ces personnes étaient si belles, leur attrait si gracieux, et l'éclat de leur âme transparaissait si vivement à travers leur forme délicate, qu'elles inspiraient toutes une sorte d'amour sans préférence et sans désir, résumant tous les enivrements des passions vagues de la jeunesse. Je ne puis rendre le sentiment que j'éprouvais au milieu de ces êtres charmants qui m'étaient chers sans que je les connusse. C'était comme une famille primitive et céleste dont les yeux souriants cherchaient les miens avec une douce compassion. Je me mis à pleurer à chaudes larmes comme au souvenir d'un paradis perdu. Là, je sentis amèrement que j'étais un passant dans le monde à la fois étranger et chéri, et je frémis à la pensée que je devais retourner dans la vie. En vain, femmes et enfants se pressaient autour de moi comme pour me retenir. Déjà, leurs formes ravissantes se fondaient en vapeurs confuses. Ces beaux visages pâlissaient. Et ses traits accentués, ses yeux étincelants se perdaient dans une ombre où luisait encore le dernier éclair du sourire.
Nous sommes deux drôles aux larges épaules, deux joyeux bandits sachant rire et battre, mangeant comme quatre, puffant comme dix, qu'en vidant des litres, nous cognons aux vitres de l'estaminet. Le bourgeois difforme, tremble en uniforme, sous son gros bonnet, nous vivons en somme. On est honnête homme, on n'est pas mouchard. On va le dimanche avec Lise ou Blanche. Dîner chez Richard, nous vivons sans gîte, goulûment et vite, comme le moineau. Haussant nos caprices jusqu'aux cantatrices de chez Bobino, la vie est diverse. Nous bravons l'averse qui mouille nos peaux. Toujours en ribote, ayant peu de bottes et point de chapeau, nous avons l'ivresse, l'amour, la jeunesse, l'éclair dans les yeux, des points effroyables. Nous sommes des diables, nous sommes des dieux.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Après le moment musical, nous revenons à Aurélia de Gérard de Nerval pour une dernière lecture. Telles furent les images qui se montrèrent tour à tour devant mes yeux. Peu à peu, le calme était rentré dans mon esprit et je quittais cette demeure qui était pour moi un paradis. Des circonstances fatales préparèrent longtemps après une rechute qui renoua la série interrompue de ces étranges rêveries. Je me promenais dans la campagne, préoccupé d'un travail qui se rattachait aux idées religieuses. En passant devant une maison, j'entendis un oiseau qui parlait selon quelques mots qu'on lui avait appris, mais dont le bavardage confus me parut avoir un sens. Il me rappela celui de la vision que je racontais plus haut, et je sentis un frémissement de mauvais augure. Quelques pas plus loin, je rencontrai un ami que je n'avais pas vu depuis longtemps et qui demeurait dans une maison voisine. Il voulut me faire voir sa propriété, et dans cette visite, il me fit monter sur une terrasse élevée d'où l'on découvrait un vaste horizon. C'était au coucher du soleil. En descendant les marches d'un escalier rustique, je fis un faux pas et ma poitrine alla porter sur l'angle d'un meuble. J'eus assez de force pour me relever et m'élancer jusqu'au milieu du jardin, me croyant frappé à mort, mais voulant, avant de mourir, jeter un dernier regard au soleil couchant. Au milieu des regrets qu'entraîne un tel moment, je me sentais heureux de mourir ainsi à cette heure et au milieu des arbres, des treillis et des fleurs d'automne. Ce ne fut cependant qu'un évanouissement, après lequel j'eus encore la force de regagner ma demeure pour me mettre au lit. La fièvre s'empara de moi. En me rappelant de quel point j'étais tombé, je me souvins que la vue que j'avais admirée donnait sur un cimetière, celui même où se trouvait le tombeau d'Aurélia. Je n'y pensais véritablement qu'alors, sans quoi je pourrais attribuer ma chute à l'impression que cet aspect m'aurait fait éprouver. Cela même me donna l'idée d'une fatalité plus précise. Je regrettais d'autant plus que la mort ne m'eût pas réuni à elle. Puis, en y songeant, je me dis que je n'en étais pas digne. Je me représentais amèrement la vie que j'avais menée depuis sa mort, me reprochant non de l'avoir oubliée, ce qui n'était point arrivé, mais d'avoir, en de faciles amours, fait outrage à sa mémoire. L'idée me vint d'interroger le sommeil. Mais son image, qui m'était apparue souvent, ne revenait plus dans mes songes. Je n'eus d'abord que des rêves confus mêlés de scènes sanglantes. Il semblait que toute une race fatale se fût déchaînée au milieu du monde idéal que j'avais vu autrefois et dont elle était la reine. le même esprit qui m'avait menacé. Lorsque j'entrais dans la demeure de ces familles pures qui habitaient les hauteurs de la ville mystérieuse, passa devant moi, non plus dans ce costume blanc qu'il portait jadis, ainsi que ceux de sa race, mais vêtu en prince d'Orient. Je m'élançai vers lui, le menaçant, mais il se tourna tranquillement vers moi. Oh, terreur ! Oh, colère ! C'était mon visage ! C'était toute ma forme idéalisée et grandie. Alors je me souvins de celui qui avait été arrêté la même nuit que moi et que, selon ma pensée, on avait fait sortir sous mon nom du corps de garde lorsque deux amis étaient venus pour me chercher. Il portait à la main une arme dont je distinguais mal la forme. Et l'un de ceux qui l'accompagnait dit « C'est avec cela ?» qu'il l'a frappé. Je ne sais comment expliquer que dans mes idées, les événements terrestres pouvaient coïncider avec ceux du monde surnaturel. Cela est plus facile à sentir qu'à énoncer clairement. Mais quel était donc cet esprit qui était moi et en dehors de moi ? Était-ce le double des légendes, ou ce frère mystique que les orientaux appellent Ferouer ? N'avais-je pas été frappé de l'histoire de ce chevalier qui combattit toute une nuit dans une forêt contre un inconnu qui était lui-même ? Quoi qu'il en soit, je crois que l'imagination humaine n'a rien inventé qui ne soit vrai dans ce monde ou dans les autres, et je ne pouvais douter de ce que j'avais vu si distinctement. Une idée terrible me vint. L'homme est double, me dis-je. Je sens deux hommes en moi, a écrit un père de l'Église. Le concours de deux âmes a déposé ce germe mixte dans un corps qui lui-même offre à la vue deux portions similaires reproduites dans toutes les organes de sa structure. Il y a en tout homme un spectateur et un acteur, celui qui parle et celui qui répond. Les orientaux ont vu là deux ennemis, le bon et le mauvais. Suis-je le bon ? Suis-je le mauvais ? Me disais-je. En tout cas, l'autre m'est hostile. Qui sait s'il n'y a pas telle circonstance ou tel âge où ces deux esprits se séparent ? Attachés au même corps, tous deux par une affinité matérielle, peut-être l'un est-il promis à la gloire et au bonheur et l'autre à l'anéantissement ou à la souffrance éternelle. Un éclair fatal traversa tout à coup cette obscurité. Aurélia n'était plus à moi. Je croyais entendre parler d'une cérémonie qui se passait ailleurs et des apprêts d'un mariage mystique qui était le mien et où l'autre allait profiter de l'erreur de mes amis et d'Aurélia elle-même. Les personnes les plus chères qui venaient me voir et me consoler me paraissaient en proie à l'incertitude, c'est-à-dire que les deux parties de leurs âmes se séparaient aussi à mon égard, l'une affectionnée et confiante, l'autre comme frappé de mort à mon égard. Dans ce que ces personnes me disaient, il y avait un sens double, bien que toutefois elles ne s'en rendissent pas compte, puisqu'elles n'étaient pas en esprit comme moi. À l'instant même, cette pensée me sembla comique, en songeant à Amphitryon et à Sosie. Mais si ce symbole grotesque était autre chose, si, comme dans d'autres fables de l'Antiquité, c'était la vérité fatale sous un masque de folie, eh bien, me dis-je, luttons contre l'esprit fatal, luttons contre le Dieu lui-même avec les armes de la tradition et de la science. Quoi qu'il fasse dans l'ombre et la nuit, j'existe. et j'ai pour le vaincre tout le temps qu'il m'est donné encore de vivre sur la terre. Comment peindre l'étrange désespoir où ces idées me réduisirent peu à peu? Un mauvais génie avait pris ma place dans le monde des âmes. Pour Aurélia, c'était moi-même. Et l'esprit désolé qui vivifiait mon corps, affaibli, dédaigné, méconnu d'elle, se voyait à jamais destiné au désespoir ou au néant. J'employais toutes les forces de ma volonté pour pénétrer encore le mystère dont j'avais levé quelques voiles. Le rêve se jouait parfois de mes efforts et n'amenait que des figures grimaçantes et fugitives. Je ne puis donner ici qu'une idée assez bizarre de ce qui résulta de cette contention d'esprit. Je me sentais glisser comme sur un fil tendu dont la longueur était infinie. La terre, traversée de veines colorées de métaux en fusion, comme je l'avais vu déjà, s'éclaircissait peu à peu par l'épanouissement du feu central dont la blancheur se fondait avec les teintes cerises qui coloraient les flancs de l'orbe intérieur. Je m'étonnais de temps en temps de rencontrer de vastes flaques d'eau, suspendues comme le sont les nuages dans l'air, et toutefois offrant une telle densité qu'on pouvait en détacher des flocons. Mais il est clair qu'il s'agissait là d'un liquide différent de l'eau terrestre, et qui était sans doute l'évaporation de celui qui figurait la mer et les fleuves pour le monde des esprits. J'arrivais en vue d'une vaste plage montueuse et toute couverte d'une espèce de roseau de teinte verdâtre jauni aux extrémités comme si les feux du soleil les eussent en partie desséchés. Mais je n'ai pas vu le soleil plus que les autres fois. Un château dominait la côte que je me mis à gravir. Sur l'autre versant, je vis s'étendre une ville immense. Pendant que j'avais traversé la montagne, la nuit était venue et j'apercevais les lumières des habitations et des rues. En descendant, je me trouvai dans un marché où l'on vendait des fruits et des légumes pareils à ceux du midi. Je descendis par un escalier obscur et me trouvai dans les rues. On affichait l'ouverture d'un casino et les détails de sa distribution se trouvaient énoncés par l'article. L'encadrement typographique était fait de guirlandes de fleurs si bien représentées et coloriées qu'elles semblaient naturelles. Une partie du bâtiment était encore en construction. J'entrai dans un atelier où je vis des ouvriers qui modelaient en glaise un animal énorme de la forme d'un lama, mais qui paraissait devoir être muni de grandes ailes. Ce monstre était comme traversé d'un jet de feu qui l'animait peu à peu, de sorte qu'il se tordait, pénétré parmi le filet pourpré, formant les veines et les artères et fécondant, pour ainsi dire, l'inerte matière qui se revêtait d'une végétation instantanée d'appendices fibreux, d'ailerons et de touffes laineuses. Je m'arrêtai à contempler ce chef-d'œuvre où l'on semblait avoir surpris les secrets de la création divine. « C'est que nous avons ici, me dit-on, le feu primitif qui anima les premiers êtres. Jadis, il s'élançait jusqu'à la surface de la terre, mais les sources se sont taries. » Je vis aussi des travaux d'orfèvrerie, où l'on employait deux métaux inconnus sur la terre. L'un rouge qui semblait correspondre au cinabre et l'autre bleu d'azur. Les ornements n'étaient ni martelés ni ciselés, mais se formaient, se coloraient et s'épanouissaient comme les plantes métalliques qu'on fait naître de certaines mixtions chimiques. « Ne créerait-on pas aussi des hommes ? » dis-je à l'un des travailleurs. Mais il me répliqua, « Les hommes viennent d'en haut et non d'en bas. Pouvons-nous créer nous-mêmes ? Ici, l'on ne fait que formuler par les progrès successifs de nos industries une matière plus subtile que celle qui compose la croûte terrestre, ces fleurs qui vous paraissent naturelles, cet animal qui semblera vivre, ne seront que des produits de l'art élevés au plus haut point de nos connaissances, et chacun les jugera ainsi. Telles sont à peu près les paroles ou qui me furent dites ou dont je crus percevoir la signification. Voilà, nous avons donc terminé pour cette semaine cette petite balade poético-fantastique qui se termine avec le texte de Gérard de Nerval que vous pourrez continuer et terminer vous-même dans cette œuvre du poète. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir et à la semaine prochaine.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.